VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, 10 civils ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi par de présumés rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Beni, dans l'est du pays. Les ADF ont attaqué la cité de Mbao. 10 civils ont été tués par balles et 2 autres blessés, a déclaré à l'AFP Jonas Kibwana, administrateur du territoire de Beni, où est situé Mbao, dans la province du Nord Kivu. Le capitaine Mac Azukai, porte-parole de l'armée dans la région, a confirmé la mort de 10 civils et l'incendie d'une camionnette suite à une incursion des ADF. Ebola en RDC maintenant, début ce lundi de la campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique, alors qu'une quarantaine de cas ont été recensés dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, dont 26 décès. Nicolas Pineau.
Oui, cette première campagne de vaccination va cibler environ 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie dans l'Équateur, près de Mbandaka, en particulier à Bikoro, où la fièvre hémorragique s'est propagée depuis 10 jours. C'est le même vaccin du laboratoire Merck qui avait été utilisé lors de l'épidémie de fièvre hémorragique qui avait coûté la vie à 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Selon le gouvernement congolais, sont concernés en priorité le personnel de santé et ceux ayant eu des contacts avec les malades. Kinshasa affirme avoir déjà reçu 5 400 doses du vaccin contre Ebola dans le cadre d'un plan de riposte contre, je cite, cette épidémie de portée nationale. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé considère que l'épidémie ne constitue pas une urgence de portée mondiale. Dans son dernier bilan épidémiologique, le gouvernement congolais faisait état d'une quarantaine de cas, dont 26 décès, un chiffre susceptible d'augmenter rapidement, d'autant que le virus Ebola a été signalé à Mbandaka, ville de plus d'un million d'habitants.
Au Mali, au moins 12 civils ont été tués samedi dans la localité septentrionale de Boulékessi, près de la frontière du Burkina Faso, après l'attaque sur un marché de militaires maliens dans des circonstances qui restent encore floues. Le gouvernement malien a envoyé une délégation sur place ce lundi, précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Toute la nuit du dimanche 20 au lundi 21, ce sont des véhicules lourdement armés des militaires maliens qui ont passé par Bandiagara. Ils se dirigent vers Kourou. D'après nos informations, 4 membres du gouvernement malien sont attendus à Kourou, histoire de parler de cette affaire qui a occasionné la mort d'au moins 12 civils. Alors que c'est dans cette même zone de Boulkessi au nord, près de la frontière Mali-Burkina, que la tension intercommunautaire reste vive. D'autres personnes disent aussi que ce sont des militaires du G5 Sahel qui ont occasionné la mort de 12 civils. Les responsables au niveau communautaire confirment la mort d'au moins 12 civils, même s'ils parlaient d'une vingtaine de victimes. Des vérifications et des enquêtes sont en cours sur les lieux, nous indique une autre source. En tout cas, plusieurs jeunes de Bandiagara ne sont pas d'accord. C'est pour cela qu'ils saluent la mission gouvernementale qui se rend à Koro afin d'éclairer la situation. Une situation très confuse avec la création d'un nouveau mouvement d'autodéfense PEL dénommé l'Alliance pour le salut du Sahel. Son drapeau est les couleurs rouge et noir. Bandiagara, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À noter que selon le journal malien L'Indépendant ce lundi, des hommes armés non identifiés auraient attaqué un checkpoint des FAMA, les forces armées maliennes, le samedi 19 mai à Boulkessi. Bilan, toujours selon L'Indépendant, 12 assaillants tués et un mort du côté des FAMA. Et puis au Sénégal, la situation reste tendue dans les universités malgré l'intervention du président Macky Sall qui a limogé samedi 2 hauts responsables de l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans le nord du pays. Un étudiant y a été tué par balle mardi dernier. Plus de détails avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueil.
Les étudiants saint-louisiens ont finalement eu gain de cause. Le recteur de l'université Gaston Berger a été limogé par le président de la République. En plus de cette décision, le chef de l'État a mis fin aux fonctions du directeur du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis. Le départ de ces deux responsables était au cœur des revendications des étudiants qui les accusent d'être à l'origine de la mort de leur camarade Faloussen. Le recteur avait réquisitionné les forces de l'ordre pour sécuriser les restaurants universitaires et ainsi mettre fin aux journées de restauration gratuite décrétées par les étudiants. S'en est suivi une confrontation contre les gendarmes qui a abouti à la mort par balle de l'étudiant Fallou Sène. Depuis ce drame, les universités publiques du pays sont en grève et les étudiants font face régulièrement aux forces de l'ordre. Les autorités espèrent que cette décision du président Macky Sall permettra d'apaiser la situation. Le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont des mesures conservatoires devant permettre aux étudiants de retourner dans les amphithéâtres. De leur côté, ces derniers exigent le départ du ministre de l'Enseignement supérieur pour reprendre les cours. Les étudiants ont d'ailleurs prévu une marche nationale ce jeudi à Dakar. Seydina Abagay pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Lutte anticorruption en Afrique. Pendant 5 jours à Abuja, au Nigeria, des représentants des pays du Commonwealth en Afrique ont discuté des questions liées au combat contre le fléau de la corruption sur le continent. Les participants ont également parlé des liens entre les agences de lutte anticorruption et les agences de sécurité. Reportage du correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba.
Pour bon nombre de participants, le recouvrement des biens semble s'améliorer. Mais la corruption demeure globalement un problème de taille sur le continent africain. Victor Bruno Paludis, le directeur général de la DCEC, l'agence de lutte anticorruption du Botswana.
Oui, je peux dire que beaucoup de pays en Afrique font des efforts, mais à différents niveaux. Et je pense que vous connaissez l'indice de perception de la corruption. Ce n'est pas très efficace, mais je pense que c'est un point de départ. Mon pays, par exemple, le Botswana, est parmi les 25 pays les plus corrompus. C'est une perception, comme je le dis, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas nécessairement dans l'indice de perception.
Bien qu'elle soit la région la moins performante du monde, l'Afrique compte plusieurs pays qui ont régulièrement marqué des points contre la corruption. Paul Kenoa, directeur général de la Commission de lutte contre la corruption de la Namibie.
Oui, les obstacles seront toujours là et ils sont là. Vous voyez, lorsque vous essayez de combattre la corruption va vous combattre. En revanche, cela est une chose parce que, quel que soit l'engagement des autorités, il y a toujours certains éléments qui ne coopèrent pas parce que vous allez trouver qu'il y a ceux qui bénéficient des institutions de corruption.
La plupart des pays africains ont mis en place des lois et institutions de lutte contre la corruption, mais il y a des obstacles qui empêchent certaines agences sur le continent d'appliquer ces lois. Il faut aussi changer la perception selon laquelle l'Afrique est le continent le plus corrompu, comme le précise Ben Omoakin Oguntala, fondateur de Security in Africa, une fondation basée en Grande-Bretagne.
Oui, ça commence en mettant fin à la perception selon laquelle l'Afrique est le continent le plus corrompu au monde. Parce qu'il y a deux parties qui sont impliquées dans la corruption, ceux qui volent l'argent et ceux qui reçoivent cet argent volé. Les deux sont en couple et dans notre définition, nous disons que si les banques au niveau de la communauté internationale n'acceptent pas de l'argent volé, donc nous avons une bonne chance.
Au Nigeria, la commission qui est chargée de lutter contre la corruption a un nouveau siège à Abuja. La construction de l'édifice a coûté 24 milliards de naira, soit un peu plus de 56 millions d'euros, alors que le bilan du président nigérien Muhammadu Buhari dans la lutte contre la corruption reste très controversée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La rencontre a connu la participation de leaders comme l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et le prix Nobel de littérature Wole Soyinka. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, la Chine et les États-Unis semblent être parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain. Les deux pays ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant provisoirement le spectre d'une guerre commerciale. Jean-Roger Bion.
Nous nous sommes mis d'accord sur un cadre, a déclaré le secrétaire américain au commerce, Steven Mnuchin, évoquant un accord pour suspendre les tarifs pendant la mise en œuvre de ce cadre. Dans le même sens, le vice-premier ministre chinois Liu He, cité par l'agence chinoise, avait annoncé que les deux parties ne s'engageront pas dans une guerre civile, dans une guerre commerciale et n'augmenteront pas les droits de douane respectifs. Liu He, un proche du président chinois Xi Jinping, était à Washington la semaine dernière pour trouver une issue au conflit commercial entre les deux puissances économiques de la planète. Ces déclarations tranchent avec des mois de tensions entre les deux pays. Le président américain fustigeant une relation commerciale déséquilibrée constituant un danger pour les États-Unis. Donald Trump dénonce en particulier le déficit des États-Unis avec la Chine, plus de 375 milliards en 2017, en raison, selon lui, de pratiques commerciales déloyales, de transferts de technologies forcées ou encore de vols de la propriété intellectuelle des entreprises américaines.
Et pour terminer, les forces de sécurité du Burkina Faso ont commis des exécutions extrajudiciaires, des mauvais traitements et des arrestations arbitraires sur des suspects lors d'opérations antiterroristes. Entre 2017 et 2018, c'est ce qu'a dénoncé ce lundi Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.